si tout va bien.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe de Bah si j'y suis. Ben nous on y est, on est à Lorient, on est venu avec Paula, Chris. Eh bien là on est presque une centaine. On y est, il y a autant de flics que de participants. Apparemment des gens de Greenpeace ont déjà été embarqués très tôt ce matin et nous il est 8h30. Donc plus tard Daniel et puis bah, le combat continue donc je te dis à plus tard. Allez ciao. Eh ben le bateau avec le soja OGM est en train de se bleuir. C'est génial. En fait, José a dit tout à l'heure au micro que tout ce qui serait OGM serait peint en bleu. Et là, le bateau a sa coque qui est peinte en bleu. C'est génial. Et tout le monde participe, quoi. C'est super. Pour l'instant, tout va bien et on est entre 1500 et 2000 personnes. Eh ben écoute, là, ça bouge, hein. Ça y est, certaines personnes du Greenpeace sont à côté. Et les CRS ont investi le bateau. C'est fou. Bah, je laisse un peu la foule parler.
Ils ont mis leur casque pour voir qu'on leur balance du boulot, mais c'est un masque filtrant qui leur sort.
Ouais, Daniel, bah écoute, là, c'est ça bouge, quoi. Hein. Le bateau bleu, et ben, maintenant bah, bleu de CRS, quoi. Et les gens commencent à gueuler. Allez, ciao, à plus, ça bouge. Tous contre les OGM. Ciao.
Oui, bonjour monsieur. Je crois que vous avez oublié les tziganes, parce qu'il y en a eu quand même des milliers de tziganes. Ils n'ont pas de plaque, hein. On parle toujours des autres, je sais bien. C'est bien. Mais les tziganes, quand même, c'est des êtres humains.
C'est formidable ce message. Vous avez oublié les tziganes. C'est le début de l'émission d'aujourd'hui. Vous allez voir à quoi on fait référence. On a encore oublié les tziganes. On s'est dit ça toute la semaine, on s'est dit ça ce matin. Et voilà qu'on trouve ce message de cette auditrice qui dit « Vous avez oublié les tziganes ». Ben non madame, on les a pas oubliés. L'émission d'aujourd'hui est consacrée dans le cadre de cet anniversaire. Ce 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, au Digan, justement, ceux qui étaient à Auschwitz, ceux qui ont été exterminés à Auschwitz, et ceux et les autres, ceux qui ont été exterminés au cours de cette période, et puis une évocation plus générale aussi des Digan, d'aujourd'hui aussi, à travers notre Europe. Le début des messages, là vous avez vu ces trois épisodes, ça s'appelle un reportable, hein, le reportage fait avec un portable, voilà, de ce qui s'est passé à Lorient ce matin, et le combat continue. Donc aujourd'hui, les Roms, les Tziganes, auparavant d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Je rappelle qu'évidemment, l'émission que nous consacrons aujourd'hui à ce sujet n'est pas sans relation avec toujours le bon docteur Munch, le dernier médecin nazi d'Auschwitz, que nous avions rencontré, vous vous en souvenez, en 1998, et qui, par la suite, à notre initiative, a été condamné par un tribunal à Paris pour les propos qu'il avait tenus dans cet entretien, et notamment, spécialement, précisément, sur les tziganes. D'autres messages donc, 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Vanessa, la juive d'il y a deux jours. J'écoute l'émission là et je suis très contente qu'on parle des homosexuels déportés. C'est moi qui avais laissé un message en disant que nous les juifs on avait souffert, on n'avait pas été seuls. Je parlais des Roms, des Tziganes et c'est vrai qu'il y avait les homosexuels, les communistes, les résistants. Merci de parler de la souffrance des homosexuels. Au revoir.
Je sais pas ce qu'on a fait pour devoir entendre ça encore aujourd'hui, 60 ans après. Mais on n'y était pas, mais y a pas de mots, quoi, y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour les Pircelles, il n'y a pas de mots pour les nazis qui les ont déportés, il n'y a pas de mots pour les héroïques résistants qui les ont persécutés encore dans le malheur, qui leur ont appuyé sur la tête dans leur malheur. Salut à tous.
Bon,
Bonjour Daniel, Marc à l'appareil, je viens d'écouter ton émission sur les déportés homosexuels. Ça me rappelle des drôles de souvenirs. Moi j'ai 33 ans maintenant, je suis donc homosexuel aussi. Et j'habitais Lille à l'époque et je participais à une association de militantisme qui s'appelait les Flamants Roses. Et on avait tous les ans déposé une gerbe au monument des déportés sur l'île à la période... où tout le monde déposait une gerbe, mais nous, on était toujours interdits d'accès avant la fin des commémorations officielles par la mairie et les associations des déportés qui étaient reconnus, j'allais dire à l'époque, mais non, puisque c'est toujours pas gagné, apparemment. Donc voilà, c'était Marc, merci, au revoir.
Oui, Daniel, eh bien, écoute, d'habitude, j'entends ton émission sur France Inter et parfois elle me choque parce que je trouve que tu remues un peu la merde. Ce soir, par contre, je voudrais te dire un grand bravo parce que pour une fois, eh bien, tu as parlé de la condition homosexuelle et tu es bien le seul aujourd'hui à en avoir parlé. Ni notre cher président Jacques Chirac en a parlé, ni même notre symbolique église chrétienne. On semble nous oublier, on semble toujours nous condamner et toi, ce soir, eh bien, tu viens de nous donner la preuve qu'on peut avoir la parole. Voilà, c'était Stéphane de Nevers. Merci beaucoup, Daniel.
C'est au sujet des exterminés d'Auschwitz. Pas de hiérarchie dans l'énumération des exterminés d'Auschwitz, mais respect de toutes les victimes, dis-tu, Daniel, c'est ok. C'est pourquoi je me permets de rappeler Kamathausen. Juste derrière les Russes viennent les républicains espagnols, adultes et enfants. Il faut savoir que beaucoup de rues de Vienne sont pavés avec des pavés qui viennent des carrières de Mauthausen, où ces républicains espagnols travaillaient. Je n'ai pas encore entendu leur nom cité dans les différentes émissions de Radio France.
Hier matin, j'ai entendu sur France Inter le témoignage de ce rescapé de Caen. Rescapé car il a pu dire au SS qui le menaçait que s'il le tuait, alors il regretterait toute sa vie d'avoir tiré sur un enfant sans défense. Hier, je lisais dans Le Monde, daté de mercredi, que l'armée américaine allait utiliser en Irak des robots téléguidés, capables de tirer avec précision jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Plus précis, car il n'y a pas d'homme qui risque de trembler en appuyant sur la détente. Prochain enfant ou adulte irakien qui sera tué par ce robot n'aura même pas eu la possibilité de parler avec son tueur. La mémoire de la Shoah, de tous les crimes nazis, de toute la guerre mondiale en général, devrait transcender notre capacité d'indignation. Le robot tueur, l'avion tueur sans pilote, vous classez ça où dans l'horreur? Faut-il vraiment vivre avec son temps? C'est Christian de Néron.
Les discours exemplaires prononcés sur la Shoah par notre cher président ne sont-ils pas sortis de la même bouche fétide que celle qui constatait avec dégoût il y a quelques années l'odeur des immigrés?
Nous sommes consternés, on ne parle jamais du camp de Dora. Et Daniel, toi qui fais toujours des émissions sur les oubliés, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces 60 000 hommes qui ont été enterrés quasiment vivants, mourant de manque de respiration, pour creuser un tunnel et y mettre une usine où on fabriquait les V1, V2. Voilà, il y a des enfants qui ont 50 ans et qui découvrent la vraie vérité de cette affaire. On leur a dit que leur père était mort à la guerre et en fait, ils sont morts là-bas à Dora et on n'en parle pas. Je t'en prie, Daniel, essaye de réparer cet oubli. Merci, au revoir.
76 000 noms sur un mur, ceux des victimes de la Shoah, c'est bien pour la mémoire, c'est même indispensable. Il y a aussi des gens qui ont fini là-bas parce qu'ils ont osé dire non, N-O-M, cette fois. Donc, on peut aussi se poser la question, et je pense que ça doit être indispensable pour la mémoire, combien aurait-il suffi de non, N-O-N, pour empêcher, quand on commence à le ressentir, cette chose effroyable qui a été donc la déportation, l'extermination de juifs, de résistants, de soldats des pays de l'Est comme de soldats français qui étaient encore un petit peu mieux traités, mais les Russes ont été traités de façon aussi là-bas immobilable, et puis pour que ça se perpétue aussi un petit peu après la guerre dans d'autres situations. Donc 76 000 noms, M-O-M, sur un mur, c'est indispensable. Il faut se rappeler qu'il n'y a jamais eu assez de noms, N-O-N, avant.
On a tout simplement, tout d'abord, porté les Tziganes au nu et loué leurs qualités et leurs dons
qu'ils avaient sur le plan musical et qui en partie se vérifiaient. Mais d'un autre côté, on a toujours pu constater que d'un point de vue moral, c'était des misérables minables.
Auschwitz,
c'était tout simplement de haut en bas, on les a tous envoyés au gaz. C'était la seule solution. Tous sont allés au gaz, sans exception. Il y avait parmi eux des gens extrêmement qualifiés qui pendant la guerre avaient été officiers, mais tous ont été envoyés au gaz. Même ceux qui avaient été considérés comme personnages particulièrement importants. Mais tout simplement du point de vue de la discipline, il n'y avait pas d'autre possibilité à Auschwitz.
Ainsi parlait en 1998 Hans Münch, le dernier médecin nazi d'Auschwitz. En 1998, ainsi il parlait des Tziganes qu'il avait croisés, qu'il avait vus dans le camp d'Auschwitz, puisque le camp des Tziganes, le Tigoyner Lager ou Familienlager, était très très proche de la fameuse rampe. Hans Münch, qui nous avait dit à quel point Mengele, le docteur Mengele, qui était à la fois son confrère, était resté son ami tout au long de leur vie à Raïsko, au laboratoire de Raïsko, et comment il en avait un bon souvenir. Parmi les Tziganes, les familles Tziganes qui étaient dans ce camp, les jumeaux et les nains, les enfants nains ou les nains en général, étaient prélevés et sur eux, Mengele, donc l'ami de Münch, faisait des expériences. Pour les propos que Münch a tenus, que je tenais à vous faire réentendre, il avait donc été condamné par un tribunal français. Ça nous donne un prétexte aujourd'hui, je crois, d'évoquer ce que fut la vie et la fin de ces Tziganes dans ce camp d'Auschwitz et plus généralement la vie des Tziganes et la mort des Tziganes dans cette Europe de l'époque, et puis évidemment avec une pensée pour ceux d'aujourd'hui qui souffrent d'une ségrégation que vous connaissez chez nous mais aussi à travers toute l'Europe. On a encore oublié les Tziganes. Salut, c'est Daniel Mermet avec Marcel Courtiade, Yetna Doka, Monsieur Bartosz et Awina Bourgues, Nacho Drone. Flight number 2,
arriving on. Ano świecim logar baro, odoj beshel mrodadoro. Beshel taigo didel. Pevočeske parokere, hačol čerhenjori, mrede vleski momeljori. Aj tukalo čiri kloro, kalo žalutno aj koro. Auschwitz est un grand camp. Là-bas reste mon père. Il y reste et il pense. Son âme est oppressée. Elle brûle la petite étoile, la petite chandelle de mon Dieu. Toi, oiseau noir, noir, endeuillé et aveugle, emporte pour moi cette lettre. Et si tu ne peux pas soulever la lettre, qui est lourde, pleine de souffrance, alors étends tes ailes. Va chez mes frères et dis-leur qu'il y a ici un grand four, que le ciel est devenu fumée et qu'il a noirci toute la terre. Va, dis aux miens quel est ce malheur pour les Roms. Les SS nous ont attrapés, ils nous ont frappés et nous ont conduits ici. Ils nous ont enfermés par les portes, ils nous relâchent par les cheminées. Du camp, on ne peut pas partir. Frères et sœurs, jamais plus ne reverront. Ah Seigneur Dieu, mon Dieu, pourquoi manges-tu la tête du tzigane ?
J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un voyage à travers la Roumanie avec avec des Roms, et sur la trace des Roms de Roumanie. Et on était avec une Rome de Bucarest qui s'appelle Nora, qui est une chanteuse tout à fait formidable et qui nous a accompagnés, qui nous a guidés. Et on avait fait une petite plaisanterie entre nous, c'était de dire « on a encore oublié les Roms ». Et on sortait toujours cette phrase-là, ça l'amusait beaucoup. Et alors, dans toutes les occasions, on disait, on a encore oublié les Roms. Et là, ce sentiment que j'ai eu ces jours-ci, pour cette célébration du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, c'est qu'on a encore oublié les Roms, on a encore oublié les Tziganes. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir aujourd'hui, Marcel Courtiade. Vous enseignez la langue romanie à l'INALCO à Paris, vous êtes commissaire à la langue et au droit linguistique de l'Union Romanie Internationale, vous allez nous dire ce que c'est, et vous avez amené avec vous Monsieur Bartosz, qui est polonais, qui vit en Pologne, avec qui vous avez fondé un musée, si j'ai bien compris, le premier musée Rome du monde.
Exactement.
Et puis, avec vous aussi, j'aurais dû commencer par vous, Madame Jetta Doka, vous êtes Rome d'origine albanaise, vous êtes lectrice de Romanie à l'INALCO, et puis j'aurais dû aussi commencer par vous, Awina Bourgès, vous êtes pas du tout Rome.
Non.
Vous êtes tout ce qu'il y a de française. Awina Bourgès, c'est tout à fait un nom français. vous êtes chanteuse.
Oui.
C'est ça. Et vous avez un projet, enfin, qui est en cours de réalisation, d'une radio Rome.
Itinérante.
Évidemment qui ne peut être qu'itinérante, hein, avec ce mythe nomade qui est lié évidemment aux Roms. On va parler des Marcel Courtiade, des Roms ou des Tziganes. Quel mot faut-il employer, Roms ou Tziganes?
Ben, les véritables Tziganes ont disparu au XIe siècle. Il s'agissait d'une secte qui venait de Perse et qui est venue dans les Balkans. Donc il n'y a plus de Tziganes depuis 1000 ans. Mais le nom de Tzigane est resté dans la mémoire des paysans d'Asie mineure et des Balkans. Et lorsque les Roms, proprement dit, sont venus d'Inde au Moyen-Âge, ils ont réactivé ce vieux nom de Tzigane pour le coller aux Roms. Et ensuite, par analogie, confusion, extension, etc., le nom de Tzigane a été donné à plusieurs autres groupes qui n'ont rien à voir avec les Roms, qui sont effectivement d'origine indienne. Donc le mieux, c'est tout de même de sortir de cette confusion des paysans byzantins d'il y a 800 ans pour maintenant parler des différents groupes avec leur propre nom. Donc quand on parle de Rome, ça peut être ambigu parce qu'on appelle Rome, d'une part, l'ensemble des Roms proprement dit, des Sintés, encore appelés Manouches en France, et des Gitanes d'Espagne, mais on le réserve aussi parfois à ces Roms qui vivent en Europe de l'Est. Donc ici, Rome peut couvrir, dans le cas du génocide, peut couvrir les deux sens. De toute façon, il est bien préférable à Tzigane pour les raisons que j'ai dites. Alors, et aussi pour la raison que c'était le terme employé par les nazis, Tzigoiner, la Tzigoiner plague, la plaie Tzigane ou la peste Tzigane ou l'abcès Tzigane, c'était les termes utilisés.
Ou Tzigoiner Lager, qui était
le camp des Tziganes, oui.
Alors justement, parlons de ce camp des Tziganes, puisqu'on est sur ce thème et cette commémoration d'Auschwitz. Il s'agit évidemment pas de rentrer dans cette sinistre et terrifiante compétition et concurrence des victimes. Et on dit, oui, mais vous parlez des Tziganes, vous allez parler des Tziganes, vous voulez parler des Tziganes, alors qu'il n'y a que 20 à 25 000 Tziganes qui sont passés par Auschwitz, donc c'est peu. Et on entend ces phrases-là, oui. C'est des phrases absolument terrifiantes, mais on est dans une histoire absolument terrifiante. Alors, commençons par le passage des Tziganes à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez évoquer ça?
Alors, Auschwitz est à la fois ce camp d'extermination, le Tzigenerlager, le camp des Tziganes, c'est aussi un symbole. Parce que si on le replace dans l'ensemble de l'histoire du génocide contre les Roms et Sinti, ça n'a été qu'une petite partie du massacre. Il y a environ 25 à 26 000 Roms qui sont passés par Auschwitz, 23 000 est passé Auschwitz, dont 21 a été exterminé sur place, 2 000 ont survécu, mais ça n'est qu'une partie de ce génocide puisqu'il a eu lieu surtout dans les autres camps, notamment à Mauthausen, à Belzec, à Neuengamme, à Dachau aussi. Puis c'est à Dachau qu'ont été déportés les premières victimes roms. Et il a eu lieu, ce massacre a eu lieu aussi dans les forêts. Les Allemands entouraient un groupe de roms qui s'étaient cachés dans les forêts et les massacraient sur place. Ou bien on a eu pas mal de massacres aussi qui ont été perpétrés par des mouvements politiques qui n'avaient rien à voir, en fait, qui n'avaient rien à voir de direct avec le Reich. Par exemple, les Oustachis en Croatie, les Tchétniques en Serbie. Aussi, on a eu des exactions comparables en Roumanie avec la déportation de 50 000 Roms de Roumanie au-delà du Dniestre, où beaucoup sont morts de faim, de froid, de maladies, etc. Les Ukrainiens aussi ont été encore plus zélés que la plupart des Allemands pour abattre les Roms. On a eu des massacres en Lituanie aussi. De ce fait, il n'y a pratiquement plus aucun Rom en Lituanie. C'est-à-dire que là, si je reprends le mot de plaie tzigane, c'est-à-dire la plaie qui a détruit les Tziganes, cette plaie nazie qui a détruit les Tziganes, elle dépasse très 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 largement Auschwitz. Le premier convoi de Roms arrivé à Auschwitz est de décembre 43, il venait de Belgrade, mais avant, plusieurs années avant, beaucoup de Roms avaient déjà été massacrés dans les autres camps. Il semble que parmi les premières victimes, on a eu 200 enfants qui avaient été raflés à Prague et qui ont servi de cobayes pour tester le Zyklon C, ce gaz mortel. Il a été d'abord testé sur 200 enfants roms qui avaient été raflés à Prague.
Alors, au total aujourd'hui, quel est le chiffre de victimes de l'extermination?
Je ne voudrais pas parler très longtemps de polémique sur les chiffres, parce qu'il ne faut pas que la bataille des chiffres, dans un sens ou dans l'autre, fasse oublier le mécanisme. Et surtout le mécanisme à long terme, quand on reprend les années qui ont précédé le génocide proprement dit. Les chiffres s'étendent entre 220 000 victimes et plus d'un million de victimes. En fin de compte, tout le monde est à peu près d'accord pour parler d'un demi-million, de 500 000. C'est le chiffre qu'on trouve un petit peu partout. Et de toute façon, ça ne doit surtout pas être instrumentalisé pour faire une espèce de concours à la victimisation.
Alors, Martial Courtiade, ce mécanisme, est-ce que vous pouvez l'évoquer? Parce qu'effectivement, là, on commence par parler d'Auschwitz, mais évidemment, il y a une histoire à ça. Est-ce qu'on peut replacer cette catastrophe dans une perspective historique, en quelques repères?
Le danger, évidemment, c'est de focaliser sur Auschwitz et de passer immédiatement à la partie la plus frappante et de tomber dans le sensationnel. Mais ce qui est au moins aussi important, en tout cas d'un point de vue pédagogique, c'est de comprendre tous les mécanismes qui ont abouti à cela. Et on a l'impression que c'était la tziganophobie, la haine des Roms, un petit peu partout en Europe, qui était latente, et que les Allemands n'ont fait que donner un signal de départ, puisque tout le monde s'est raillé, pratiquement dans toute l'Europe, sauf au Danemark et en Bulgarie, tout le monde s'est raillé à cette folie de destruction des Roms, mais il semble que Hitler n'ait été qu'un catalyseur d'une tziganophobie très très largement partagé dans les différents pays d'Europe, à tous les niveaux. Depuis le peuple jusqu'aux dirigeants qui reflètent toujours plus ou moins les idées du peuple, même s'ils les manipulent particulièrement, certaines églises, etc., comme en Croatie, Et mais les Allemands ont fait office un petit peu de fureur là-dedans, de conducteur pour cette opération qui a tout de suite pris et qui a eu lieu dans certains pays bien avant que les Allemands n'arrivent. Par exemple, les Allemands sont rentrés en 39 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, mais déjà en 38, on avait des quantités d'articles qui appelaient à la destruction des Roms, qui étaient d'ailleurs censés appeler les Juifs noirs. Donc vous voyez comment le lien était fait dès 38, et puis on a vu avec l'application des mesures de destruction des Roms, les journaux qui titraient avec triomphalisme « Telle région est enfin délivrée des Tziganes, Zbavieno Tzikano ». Telle région, l'une après l'autre, on avait l'impression d'une épuration vraiment qui se faisait, et ceci dans l'euphorie de la presse.
Il y a ça encore, si on veut remonter dans le temps, il y a ça, la science a apporté son appui à tous ces fantasmes raciaux.
Oui, la pseudo-science du 19e siècle sur les débuts de l'anthropologie qui était en fait l'idée de classer les races par une sorte de hiérarchie depuis les races génétiques les mieux faites pour vivre et puis celles qu'on devait soit coloniser, exploiter et ensuite on a vu que l'idée était arrivée jusqu'à les exterminer. Et dans le domaine rom proprement dit, l'Allemagne a là aussi été une sorte de chef de file. À partir de la fin du 19e siècle, on voit apparaître une série de lois qui sont directement et nominalement adressées aux Tzigeuners, en particulier en Bavière. Auparavant, on parlait des gens vagabonds, sans feu ni lieu, etc. Mais à partir des années 1860-70, on a vu apparaître des véritables lois contre les Tzigeuners et ça a été couronné par la Tzigeunerzentrale, la centrale des Tziganes de la police de Munich, qui était dirigée par un dénommé Alfred Dillmann, auteur d'un livre, le Zigeunerbuch, une espèce de catalogue de tous les Roms de la Bavière. On a plus de 5000 noms qui sont entrés et c'est précédé d'une préface expliquant pourquoi on doit se méfier tout particulièrement de ces gens. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce ne sont pas les vols de poules ou autres traits qui sont rentrés dans le folklore qui prévalent dans cette préface. L'accusation principale contre les Roms, c'est qu'ils n'ont pas de sang pur. Il est écrit que ce sont des gens qui, au départ, étaient à rien, mais qu'il n'existe plus aujourd'hui de sang pur tzigane. La plupart sont souillés par du sang tchèque. Alors pourquoi du sang tchèque? Sans doute à cause de la proximité de la Bohême. Et qu'il n'existe peut-être que 2 ou 3 familles encore de sang pur en Hongrie et 5 ou 6 dans les Pyrénées, mais que tous les autres ont du sang impur. Donc on voit très bien comment à partir de là, cette tziganophobie qui était diffuse dans les foules allemandes a pu se structurer autour de cette pseudo-science anthropologique et arriver à tous les prétextes qui ont été invoqués par les nazis pour détruire les Roms et qui en fait n'étaient que des prétextes, comme le montre la analyse.
Et est-ce que les Roms résistent à tout ça?
Oui, il y a eu des mouvements de Roms, mais pas spécifiques. Les Roms, dans beaucoup de pays, se sont rentrés dans le maquis, chez les partisans, comme on dit là-bas. Et aussi, en profitant de cette position du Rom un petit peu, je dirais pas marginale, mais un petit peu particulière et spécifique, qui les mettait à la fois en danger, là où il y avait effectivement une politique de destruction des Roms, mais qui aussi leur permettait de circuler, de porter à manger. Ils assuraient toute une logistique dans certains pays, comme en Serbie, par exemple, en Albanie aussi.
En Serbie, ils ont soutenu la résistance.
Absolument.
Ce qui a donné aux Ustachis le prétexte des massacres.
Exactement. Et à certains tchétniques aussi, puisque les tchétniques, par exemple, ont été coupables de crimes dans le camp de Nish et évidemment de complicité avec les Allemands. Mais il y avait des Roms, par exemple, à Kosovska Mitrovica, Mitrovica et Kosovis, qui étaient à la mairie et qui ont envoyé des rapports à l'occupant allemand en disant qu'il n'y avait pas de Roms, que les Roms étaient totalement inconnus dans leur région, ce qui a permis pendant plusieurs années de sauver ces Roms. Il y a aussi en Serbie des médecins serbes qui ont fait des déclarations, qui ont mis des quartiers entiers Roms en quarantaine, ce qui fait que les Allemands ne sont pas entrés parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Il y a eu toute une coopération entre Roms et partisans pour se porter aide les uns aux autres. En Albanie aussi, on a dans la famille de Yeta des femmes qui ont servi pour alimenter, pour porter aux maquisards de la nourriture, aussi bien pendant l'occupation allemande que l'occupation italienne.
Ça donne une occasion de parler avec Yeta Doka. Je rappelle, Yeta Doka, vous êtes lectrice de Romanie à l'INALCO, et donc Marcel Courtiade enseigne dans cette école.
Traducteur.
C'est votre traducteur.
Oui.
Dites-moi, je sais pas comment on va faire, si vous pouvez parler directement français ou si Marcel traduit, comme ça, ça nous donnera l'occasion d'entendre votre langue. Quelle est l'importance de ce qu'on est en train d'évoquer dans la mémoire des Roms d'Albanie aujourd'hui?
Σεβαστό ότι τεγιανέν σε κερδιλό η εκφέστα ακανά παλάκο μου δαρυπέ νούμα λιπαρδίλε ο Ρωμά ο Τζουτά ο Ρωμά νίεκ να λιπαρδάλε μπάριο να μάρε τσαβέ τα να τζιανέν καντ σε να λιπαρδίλε νίκη σκόλα νίκο δρόμ νίκο κερ νίκα τίντε.
C'est extrêmement important parce que, comme on l'a vu pendant ces festivités qui ont eu lieu, nulle part les Roms n'ont été cités et on a parlé que des victimes juives, si bien que les enfants n'ont aucune transmission de cette mémoire, ni dans les écoles, ni à la télévision, ni dans les maisons, ni dans la rue.
Festivité, le mot est peut-être un peu mal placé parce que c'était pas la fête, quoi. C'était pas une fête cette commémoration. Disons commémoration.
Commémoration, bien
commémoration.
Sûr.
Τα καμά τε πενάβ, σα βορέγγε, βία κατέ, βί, σα κοντανέστε, σα οσουνδάλ, μαγκά τε πενάβ, σα βία γατζενγε, κα βία μεν, τσατσένα νέα μεν σκόδα. Αμα γοντισιά μεν, ισιά μεν χάτσα, τένα βριστάς ο σαμόντρι πέ ρομέγγο, τε τζανένε, βία μάρε τσαβέ, κα βία μεν δαρισιμού δαρδένα, νουμαία καταροτζουτά.
Et donc, je veux dire, profiter ici pour dire à tout le monde, aux Roms et aux Gadjés du monde en entier.
Les Gadjés, c'est les non-Roms.
Les non-Roms,
hein.
Oui.
Gadjo au singulier, Gadjé au pluriel.
Au pluriel, Gadjé, donc, et aux autres, si vous voulez.
Marcel,
c'est nous qu'on appelle les autres, en général. ici, c'est l'occasion d'appeler les autres, justement. C'est vrai que la plupart des Roms n'ont pas d'école, mais ils ont un esprit, une âme, etc. Il ne faut pas que leur génocide soit passé à l'oubli.
Est-ce que c'est quelque chose, Yetta Doka, est-ce que c'est quelque chose dont on parle chez les Roms d'Albanie, puisque vous êtes albanaise, avec les parents, avec les enfants, est-ce que vos parents vous en ont parlé, etc. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on passe sous silence?
Εκφορά να μπούτ, που εκφορά καίσι μανούς γοντιαβέρ χάτσα σχολάσαρ, λιπαρδιόλα παλάκο μου δαρυπέ, σικαβένε τσαβένε τυχνένε.
On en parle un petit peu, pas très souvent, mais c'est surtout les gens qui ont été à l'école qui en parlent, parce que la transmission de principe se passe par l'école, donc il le dit à ses enfants.
André Kocher qui σχολά να.
À l'intérieur de la maison, pas à
ni télévision, ni scola, ni canch.
La télévision est totalement muette et rien du tout, uniquement le père et la mère qui peuvent le dire à leurs enfants.
Mm. Est-ce que vous avez connu des survivants de ces massacres, de ces exterminations dans votre enfance?
D'Albanie, les Allemands n'ont rien compris à ce qui se passait au paysage ethnique. Ils étaient très sous la pression des partisans. Ils n'ont pas eu le temps de mettre en place une politique d'extermination. Et puis, il y avait tant de conflits entre les factions albanaises que, grâce à ça, les Juifs et les Roms ont échappé. Oui, j'ai connu ici en France, seulement quand je suis arrivé, des survivants, parce qu'en Albanie, on n'avait pas cette situation où les Roms étaient tués d'une façon à part et les autres étaient tués d'une façon à part. En fait, ceux qui ont été tués en Albanie, c'était ou bien Roms ou les autres, non pas ethniquement, mais parce qu'ils étaient dans le maquis, la résistance.
Aujourd'hui, quand on a ces rassemblements de Roms, est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué, cette mémoire-là?
Non, mon troven. Quand il y a une conférence, il y a une conférence, oh, pirdam, halam, pivam, shunam, blablabla.
Les gens disent plutôt, on est allé à une conférence à l'étranger, on a mangé, on a bu, c'était du blablabla.
Expliquez-moi, Marcel Courtiade, pourquoi cette mémoire est refoulée?
Historiquement, il y a eu beaucoup de causes qui se sont jointes pour faire suite à ce que disait Yed Daduka, que ces commémorations soient perçues comme du blablabla. C'est sans doute parce qu'elles ont un caractère beaucoup trop officiel, beaucoup trop rigide, et que ça n'est pas assez parlant. Ça n'est pas le langage rome, si vous voulez, parce qu'il y a la langue romanie d'une part, mais aussi le langage, la façon de parler, la façon de toucher le cœur, les sentiments, la façon d'évoquer, pas seulement par des chiffres ou par des atrocités, mais aussi enraciner dans l'individu toute la relation par rapport à cette atrocité. Donc c'est la raison pour laquelle les conférences internationales sont souvent considérées comme du blablabla.
Quand j'avais à Strasbourg, dernier chavet, pour la conférence, j'avais gagé na camente janen so ici pour la commodari peke romengo na vacharen kanch.
Il y a aussi un autre problème, c'est que souvent, comme à Strasbourg, ce ne sont pas des Roms qui sont envoyés par les Albanais aux conférences, ce sont des gadgets qui font ça uniquement pour le plaisir d'aller participer à quelque chose de prestigieux au Conseil de l'Europe, mais qui n'ont absolument aucun intérêt d'être dans la direction des questions Roms.
Et est-ce que, à partir de quand, justement, puisque vous parlez des gadgets, à partir de quand ce génocide des Tziganes ou des Roms, le génocide des Roms, a été reconnu par la communauté internationale et par l'Europe.
En Albanie, concrètement, la découverte a été liée à la projection du film de Alexander Ramati et les violences cessèrent de jouer, qui retrace la destinée de plusieurs familles roms sous le nazisme, qui finissent d'ailleurs, à l'exception de deux enfants, massacrés à Auschwitz. Et parce que avant, les Albanais savaient qu'il y avait eu un massacre des Roms et ils disaient, Hitler a eu tort de vous laisser vivants, de ne pas vous exterminer tous dans des moments de colère.
Marcel Courtiade, on continue avec cette évocation d'extermination des Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Racontez-nous ce qui s'est passé en France.
Alors en France, le régime de Vichy a devancé les volontés de Hitler dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres domaines. Il y a eu des rassemblements des Roms qu'on appelait nomades à l'époque officiellement ou Roms à Nichelle plus officieusement dans une trentaine de camps, qui là aussi avait été totalement oublié pendant des décennies jusqu'au jour où Monsieur Sigaud, un instituteur, a découvert des ruines à Montreuil-Bellay. À partir de ça, il a mené une enquête et il a pu ramener à la mémoire de tout le monde ce que les habitants du village ne voulaient absolument pas dévoiler. Et à partir de Montreuil-Bellay, un certain nombre d'autres camps ont été retrouvés, à Lierre et d'autres. Enfin, il y en a eu plus de 30.
Il faut rappeler que ces camps avaient été établis avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ils avaient été établis souvent pour des réfugiés espagnols. Les Roms ont été enfermés sous prétexte qu'ils étaient trop mobiles et qu'ils risquaient de donner des informations à l'ennemi. Mais ça aussi, c'était un prétexte. C'était simplement une façon de justifier plus ou moins administrativement la concrétisation d'une tziganophobie, d'une romanichélophobie, je pourrais dire même, qui était partout présente et qui est encore très, très largement. Alors certains ont été envoyés en déportation en Allemagne, il y en a un certain nombre qui ont été massacrés dans les camps de la mort, mais un bon nombre aussi est mort de froid, de faim, de maladie, de manque de soins, etc.
Bien, alors je vais me tourner maintenant vers Monsieur Bartoche. Monsieur Bartoche, vous êtes polonais, et donc avec Marcel Courtiade, vous dirigez un musée dans le sud-est de la Pologne.
Et
Monsieur Courtiade, vous nous dites que c'est le premier musée Rom au monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Tak, idea utworzenia takiego muzeum zrodziła się już w 79 roku i od tego czasu zacząłem kolekcjonować wszelkie dokumenty, przedmioty związane z historią i kulturą Romów.
L'idée de la création de ce musée a déjà commencé en 1979 et à partir de ce moment, j'ai commencé à rassembler des objets liés à la culture et à l'histoire des Roms.
Vous êtes historien,
Jestem antropologiem.
Ile antropologiczny?
Ale kieruje muzeum wielowydziałowym, o bardzo różnorodnej tematyce.
Et il est directeur d'un réseau de musées avec des thèmes, des sujets très très variés.
Tam ta część poświęcona Romom jest jednym z fragmentów naszego wielkiego muzeum.
La partie qui est consacrée aux Roms n'est que un des fragments de l'ensemble du réseau de musées.
Quelle est l'importance de cette extermination pour les Polonais aujourd'hui dans la mémoire?
No, w pamięci Polaków, podobnie zresztą jak w pamięci Romów, ta zagłada właściwie nie miała miejsca do niedawna jeszcze.
Dans la mémoire des Polonais, de même que dans la mémoire des Roms, cette extermination n'avait pas de place jusqu'à récemment.
Musimy przypomnieć, że w każdej polskiej rodzinie poniesione zostały ogromne ofiary, a poza tym w każdym mieście, w każdej wsi wymordowano ogromne ilości Żydów i to głównie się pamiętało.
Il faut pas oublier que dans chaque famille polonaise, il y a une grande quantité de victimes et que dans chaque village, dans chaque hameau, de très nombreux Juifs ont été massacrés.
I może jeszcze należy dodać, że sami Romowie, którzy nie mieli żadnych instytucji, żadnych przedstawicielstwa, inteligencji, która by o tym pamiętała, nie mieli świadomości skali tej zagłady.
Et il faut aussi ajouter que les Roms, qui n'avaient pas leurs propres institutions pour mettre en ordre cette mémoire, n'avaient pas la perception de l'étendue du massacre.
W świadomości przeciętnego Roma, on pamiętał, że cała rodzina została wymordowana, czy cały tabor, natomiast nie mieli świadomości skali zagłady oraz ideologii, która temu towarzyszyła.
Chaque Rome se rappelait que toute sa famille, par exemple, avait été exterminée, ou bien un camp entier, mais il n'avait pas l'idée de la dimension européenne du massacre, et non plus de l'idéologie qui avait conduit à ce massacre.
Alors, ce que me dit Marcel Courtiade, c'est que chaque année, au mois de juillet, vous faites des camps de mémoire dans votre région?
Tak, lipiec to jest taka data rocznicowa, ponieważ w lipcu 1943 roku w jednej z okolicznych wsi wymordowali Niemcy dużą osadę liczącą około 100 osób.
Oui, parce que c'est la période où en 44 la police allemande a tué une centaine de personnes dans un habitat rom.
Już w 65 roku miejscowi ludzie postawili tam pomnik, który uważamy za pierwszy na świecie pomnik poświęcony pamięci Romów.
Et déjà en 1965 les habitants du village spontanément ont dressé un monument que nous considérons comme le premier monument au monde à la mémoire du génocide des Roms.
Oczywiście w wielu innych wsiach są również masowe groby, w których leżą pomordowani Romowie, ale ten jest takim symbolem naszej pielgrzymki.
Bien sûr, dans beaucoup de villages des environs, il y a encore des charniers de Roms, mais nous considérons ce village comme le symbole de notre pèlerinage.
À quoi ressemble votre musée? Premier musée Rome au monde?
Ta wystawa składa się z takich dwóch części. Jedna to jest część klasyczna w salach, gdzie prezentuje się historię i kulturę Romów.
Il se constitue de deux parties. La première dans des salles, qui est de présentation classique avec l'histoire et la culture des Roms.
I druga część to jest na dziedzińcu muzealnym jest rodzaj skansenu cygańskiego, a więc rekonstrukcja obozowiska z wozami, namiotami, ogniskiem.
Et à l'extérieur, dans une espèce de jardin, il y a une reconstitution d'un camp cigane avec des roulottes, une collection de roulottes et de tentes.
I tam odbywają się plenerowe imprezy typu koncerty, wykłady. Stamtąd wyrusza nasz tabor.
Et là-bas, on a des événements culturels du genre conférences, concerts. C'est de ce point que parle le camp de la mémoire dont on a parlé tout à l'heure.
Il y a une communauté rome importante en Pologne?
Właśnie w Polsce jest w stosunku do innych krajów bardzo niewielka liczba, około 30 tysięcy, a więc ułamek procenta całej populacji kraju.
Justement, la Pologne est une exception par rapport aux autres pays, avec un nombre, un pourcentage très très bas, puisqu'il n'y a que 30 000 Roms dans toute la Pologne.
Ale jest to bardzo aktywne środowisko, czego dowodem jest choćby to, że prezydentem Światowej Rady Romów jest w tej chwili z Polski Rom.
Mais c'est un milieu qui est extrêmement actif, comme on peut le voir du fait que, par exemple, à l'heure actuelle, le président des Roms du monde est polonais.
Ah bon?
Le président de l'Union Romaine Internationale.
En deux mots, Marcel Courtial, parce qu'on est en train d'évoquer finalement, à partir de cette célébration de la libération des camps d'Auschwitz, et donc on a voulu aujourd'hui parler des Roms d'Auschwitz, on est en train de parler des Roms, on en parle si peu, qu'on aborde une quantité de sujets à la fois. L'Europe, ce espèce de machin qu'on est en train de faire, change complètement la vie des Roms et la présence des Roms, qu'on peut voir comme les premiers Européens, et une espèce de métaphore vivante et ambulante de l'Europe.
Oui, c'est ce que disait Gunther Grass aussi, que les Roms étaient ce que nous tendons tous à devenir, de véritables Européens. Et cette idée a été reprise en ce moment même, aujourd'hui, hier et demain, à Barcelone. La fondation Yehudi Menuhin organise une conférence sur la place des peuples sans territoire compact dans la construction de l'Europe, préfiguration de l'Europe, ou peuples marginalisés dans l'Europe. Évidemment, surtout avec l'entrée, d'ici quelques années, de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne, on verra encore plus se modifier les rapports démographiques des populations. Le nombre de Roms dans l'Union européenne atteindra les 10 millions, ce qui est plus important que beaucoup de populations d'États à l'intérieur de cette Union européenne.
C'est entre Europe et Roms, il y a presque une consonance.
C'est presque une rime, en tout cas une assonance.
Les Roms auront fait l'Europe avant tout le monde. Alors, je me tourne vers vous, Awina Burgess, vous n'êtes pas, on l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas Rome du tout, vous êtes tout ce qu'il y a de Gadja.
Rakli, parce qu'elle est jeune.
Alors comment on dit?
Rakli, elle est jeune.
Ah bon, Rakli, vous faites du chant et vous êtes en train de créer une radio Rome.
Oui.
Qui s'appelle Radio Itinérante Zigane. Les mots s'envolent, une association loi 1901. C'est un bus dans lequel vous allez installer tout ce qu'il faut pour faire une radio ambulante.
Voilà, exactement. Avec ce bus, on ira stationner dans des communautés roms en France pendant une période de 1 à 2 mois. Et le but, c'est que ce soit un espace de rencontre à la fois entre les Roms et la population gadjé parmi laquelle ils sont installés, et aussi entre les différents groupes de Roms entre eux.
Ce qui n'est pas simple, Marcel.
Justement, c'était un des instruments de réintégration de l'ensemble de la communauté Roms, et aussi avec les autres minorités, avec les majorités, bien sûr.
Et puis, offrir aussi une perspective culturelle, faire connaître la culture, les cultures Roms, parce que souvent, on connaît pas, quoi.
On va revenir et on va finir avec Auschwitz, puisque c'est le thème de notre émission, et puis c'est le thème de cette semaine, cette commémoration. Je rappelle encore une fois que à Auschwitz, c'est les chiffres que vous donniez tout à l'heure, il y a à peu près de 20 à 25 000 personnes qui sont passées par ce camp d'Auschwitz. C'était des familles, hein, c'est un regroupement familial.
C'est ça.
Sur, si mes renseignements sont bons, c'était 32 baraques où ces 20 et quelques mille personnes étaient
à Birkenau,
dans des conditions absolument épouvantables. Et donc, cette fameuse nuit du 2 ou 3 août 1944, 4000 de ces personnes, familles, femmes, enfants et hommes ont été gazés par les nazis. Lors de la libération du camp d'Auschwitz, je suppose qu'il n'y avait plus du tout de Roms dans le...
Non, il n'y en avait plus à ce moment-là. Il semble que lors de la Zigeunernacht, donc cette nuit où les 3900 Roms ont été gazés pour faire de la place dans le camp, très cyniquement, deux enfants auraient survécu qui ont été retrouvés le lendemain et abattus immédiatement. Donc on n'a pas de témoins directs.
Alors je reviens à ce mot qu'on a appris aujourd'hui, Samudaripen. On l'a entendu dans la bouche de Yetta Doka. Samudaripen, ça veut dire le génocide.
Le massacre de tous.
On a des récits évidemment de cette nuit et de cette extermination à Auschwitz. Et puis on a des chants. On a très peu de chants, il y en a qui ont été collectés par Tony Gatliff, formidable réalisateur de films, à travers surtout un film qui s'appelait La Chaudrome. Ça veut dire quoi, La Chaudrome?
Bonne route.
Bonne route, hein, c'est ça. Oui, bon voyage, hein, c'est ça, La Chaudrome. Alors, Awina Burgess.
J'ai lu un chant que Marcel m'a appris, et qui est sur Auschwitz, sur le camp d'Auschwitz.
Ay devlamuro devloro, Sos quejas romanoshero. Ay devlamoro devloro. Sos quejas romanoshero.
Voilà, merci à Wina Borges qui est en train de chanter ce l'un des rares chants inspirés au Rhum par le génocide et Auschwitz. Merci à Marcel Courtiade, à Yeta Lomka et à Monsieur Bartoche. À lire le livre d'Henriette Asseo aux éditions Gallimard, la collection découverte, Les Diganes, une destinée européenne, de Marcel Courtiade, Les Roms dans les belles lettres européennes aux éditions de L'Harmattan, et de Claire Ozias aussi, Samoudaripone, ce mot que, voilà, vous avez découvert, je pense, nombreux, Samoudaripone, le génocide des Diganes, aux éditions de L'Esprit Frappeur. Et voilà pour aujourd'hui. Technique Benjamin de la Gatinet, Sophie Moreno et Patrick Henry. L'équipe de la basse, si j'y suis, c'est Pascal Le Pascariello, Yann Chouquet, Antoine Chao et Christophe Imbert. Et le numéro du répondeur de la basse, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Voyez Marcel Courtiade.
Oui, il est exact qu'au moment de la libération du camp de Auschwitz, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un petit peu un symbole pour quelque chose de beaucoup plus large, au moment de la libération du camp de Auschwitz, il n'y avait plus de Roms. Mais ceux qui étaient dans les autres camps, aussi bien en Pologne qu'en France, sont restés enfermés pendant plusieurs mois, et pour certains pendant plus d'un an, et encore dans des conditions pratiquement comparables à celles qu'ils avaient connues sous le régime nazi. C'est aussi quelque chose qui est oublié. On a encore oublié les Roms, et là aussi, on les a encore oubliés dans les camps. Votre phrase prend là une dimension plus que tragique. On les a oubliés pendant plus d'un an. Administrativement, tout était bloqué.
Il est adoquin.
Comme avec des pénales, maté bistardiol, via maro mudaripé, kai mudardi la mare romain, tena bistardiol nico gadje, te vachardiol peki televisia tako radio, tai vico Roma, tena bistrone lia mare chaveti gine, tena bistardiola kava mudaripe, sos che si bud bariduk, kana shune vigila, ta viga dice.
Ce qui est important, c'est que ni les Roms, ni les Gadjets, ni les autres n'oublient ce massacre des Roms, parce que c'est vraiment poignant, aussi bien quand on entend ces chansons que quand on voit ce qui s'est passé.
Merci beaucoup. Comment on dit merci ?
Off s'instant.
Bien plaisanterie là-dessus. Dépenda.
Non.
C'est-à-dire, donne encore.
Non, Marcel, off s'instant.
Non, mais on dit off s'instant à un homme, off s'instant à une femme.
Merci à tous. Donc, on se retrouve pour la base où j'y suis lundi à 17h. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse avec Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut.